À Dieu soit toute la gloire et nous le bénissons pour toutes ces occasions qu'il permet pour nous de partager sa parole en diverses circonstances, seul chez nous, ensemble, ce matin. C'est une grâce et un privilège. Ce matin, je vais vous inviter à faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va faire une matinée portes ouvertes. Vous connaissez les journées portes ouvertes qui sont souvent l'occasion de visiter, de rencontrer un lieu particulier. Ce matin, nous allons visiter un lieu où nous ne voulons pas aller, ça c'est clair. Mais pourtant, où la vie nous conduit bien souvent. Ce lieu, c'est l'école de la souffrance. Ce sera le titre de notre message ce matin, l'école de la souffrance. Mais avant de commencer la visite, comme introduction à ce message, je voudrais voir avec vous quatre textes de la Bible qui nous montrent très clairement des temps particuliers de notre vie, des temps de souffrance qui sont associés à des temps d'éducation, des temps d'apprentissage. Quatre textes de la Bible qui associent très clairement un temps de souffrance et un temps d'éducation. Le premier texte, on va le lire ensemble dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, livre du Deutéronome au chapitre 3. Alors je vais me répéter un peu pour ceux qui ont l'habitude, m'ont déjà entendu prêcher. Je m'excuse, mais on va lire beaucoup de textes ensemble. Certains, je vous les citerai, sinon ça serait trop long. Mais j'ai vraiment à cœur que l'on puisse, le plus souvent possible, regarder et lire ensemble le texte de la parole de Dieu, parce que j'ai vraiment envie que ce soit elle qui nous enseigne ce matin. Pas des convictions personnelles, mais ce que l'Éternel lui-même nous a dit dans sa parole. Deutéronome, chapitre 8, juste le verset 3. On y reviendra plus tard. Si vous avez des petits signets, vous pouvez le mettre. J'ai dit Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Ah, j'avais dit autre chose ? J'avais dit chapitre 3, verset 8 ? D'accord. Ça commence bien. J'ai dû le dire parce que j'étais au chapitre 3 moi aussi. Hein. Ça impressionne toujours d'être là. Et tant mieux. C'est l'Éternel qui parle ainsi. Dieu t'a humilié, Dieu t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Dans ce verset, c'est très clair, association d'une dimension de souffrance, il t'a fait souffrir. Et plus loin, afin de t'apprendre. Je ne viens pas sur le fond du sujet, c'était juste ce texte pour voir l'association entre ces deux temps particuliers. Israël a appris à vivre de ce que Dieu lui donnait, même pour la nourriture. Voilà, ça c'est le premier texte. On va lire un second texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Alors cela, ça nous concerne un peu plus, de toute façon, tout ce que nous allons partager de près ou de loin nous concerne, mais ça concerne les chrétiens, les disciples. Il y a une image extraordinaire que le Seigneur nous laisse du cep et du sarment. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, on va lire les deux premiers versets. C'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. » Il l'émonde, il le taille, il l'élague, il enlève toutes les branches qui sont futiles, qui ne serviront pas. Il purifie. Il s'agit des chrétiens qui portent déjà du fruit, Mais vous savez que le vigneron, lui, ce qu'il a envie, c'est que la vigne, elle porte encore plus de fruits. Il y a une association entre la souffrance, un peu l'image de ce sécateur qui vient un petit peu là, entre la souffrance et cet apprentissage dans notre vie, en tout cas, cette façon d'être éduqué et formé pour porter davantage de fruits. C'était le deuxième texte et je voudrais voir un troisième texte avec vous dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Il s'agit maintenant de l'apôtre Paul. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. » Le but n'est pas de venir sur le fond de ce verset, mais on voit très clairement que l'apôtre Paul, au travers de certaines souffrances, que le Seigneur d'ailleurs va maintenir dans sa vie, il est question ici d'une écharde dans la chair, au travers de souffrances, l'apôtre Paul va apprendre à dépendre de la force qui vient de Dieu. Et l'apôtre Paul, si grand qu'il était dans sa communion avec Dieu, a eu besoin d'apprendre à puiser sa force en Jésus-Christ au milieu de ses propres faiblesses. Association tant de souffrances et tant d'apprentissage d'éducation. Le quatrième texte que je voudrais lire avec vous, c'est dans l'Épître aux Hébreux, un petit peu plus loin, au chapitre 5, et là il est question de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi a eu besoin de passer par toutes ces souffrances. Et je ne l'ai pas mentionné ce matin, mais pour vous qui connaissez Isaïe 53, vous penserez à tous ces versets où Christ est vraiment présenté comme un homme de douleur et qui a porté beaucoup de souffrances. Hébreux chapitre 5, verset 8, il est question de Christ. Christ a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je lis le verset suivant aussi, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Amen. Il y a donc cette association très claire au verset 8 d'un temps de souffrance qui est associé avec un temps d'éducation. Et on pourrait dire, on le dit souvent, mais si Jésus-Christ a dû passer par ce temps-là pour apprendre l'obéissance, qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Il est important de dire à ce moment de la prédication quelque chose qui est fondamental, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas le sujet ce matin d'approfondir et ça serait important quand même de le faire parce qu'il y a beaucoup de confusion parfois dans nos souffrances. Et c'est souvent quelque chose sur lequel on s'interroge beaucoup, les causes, les raisons, etc. Il suffit ce matin juste de dire, pour notre message, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais il est important de dire aussi que quelles que soient nos souffrances, alors nos souffrances, elles peuvent être différentes, ça peut être des souffrances naturelles. Dieu, par exemple, a créé la loi de la pesanteur, je tombe, je me fais mal, voilà, je subis la loi de la pesanteur, des choses tout à fait naturelles. Ça peut être par désobéissance. Il y a de nombreux textes dans la parole de Dieu qui parlent effectivement des souffrances qui sont liées à nos désobéissances. Dieu a mis des lois dans la nature, il a mis aussi des lois morales. Et là, malheureusement, on peut penser à nos pays qui sont si éloignés des lois morales que Dieu a voulu instituer. Ne nous étonnons pas, dans la loi de cause à effet, qu'il y ait beaucoup de souffrances dans nos nations. Il y a ces lois que Dieu a instituées, il y a aussi notre désobéissance, les mauvais choix que nous pouvons faire. On peut souffrir à cause du fait simple que nous sommes chrétiens. Nous savons et nous prions pour nos frères et sœurs qui, par-delà la terre, souffrent, sont privés parfois de la vie juste pour avoir ouvert la Bible. Ce qui est important de dire, c'est que quelle que soit l'origine de nos souffrances, ce n'est pas le sujet ce matin, Dieu fera tout pour tirer du bien de ce mal, pour nous et pour sa gloire. C'est ce que nous devons savoir ce matin. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais de ce mal, il va vouloir en produire du bien. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Vous connaissez, pour vous qui connaissez en tout cas, l'histoire de Joseph. Quand on parle de souffrance, on pense souvent à Joseph. Joseph. Eh bien, vous savez, Joseph, à la fin de tout ce périple, après toute cette horrible souffrance qu'il aura vécue, il dira à ses frères qui ont été l'objet de cette souffrance, il dira ceci: maintenant ne vous affligez pas. Il dira: ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie, vous sauver la vie, que Dieu m'a envoyé devant vous, dans Genèse 45, verset 5. Et il dira plus loin: vous aviez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver un peuple nombreux, dans Genèse 50 et le verset 20. Dieu change le mal en bien. Et il veut, mon message ce matin, utiliser ces situations pour nous apprendre certaines choses que l'on ne peut apprendre que dans certaines situations. On en reparlera tout à l'heure. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le change en bien. L'apôtre Paul a dit ceci: là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Elle a toujours été supérieure au mal. Et nous pensons à la croix du calvaire. Là où le péché s'est exprimé dans toute son horreur, la plénitude de la grâce de Dieu s'est révélée à toute l'humanité. On va commencer notre visite dans cette école de la souffrance. Alors, le début de la visite, je vous ouvre une grande salle. On commence par une grande salle. Alors, cette salle, elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est rempli de petites tables. C'est des tables individuelles. Il y a une chaise derrière chaque table. Et toutes ces tables, elles sont bien espacées les unes des autres. On a l'impression que c'est fait exprès pour que ça ne communique pas entre elles. Alors, vous avez tous reconnu notre salle préférée, la salle d'examen. Au début de l'année, tout au long de l'année, à la fin de l'année, il y a un temps d'évaluation, des examens pour savoir où on en est. Et ça sera le premier point que nous allons partager ensemble, un temps d'examen. À l'école de la souffrance, il y a ce temps particulier pour chacun de nous qui permet à Dieu de nous examiner, mais aussi qui permet à nous-mêmes de nous examiner au plus profond de nous-mêmes. Et je voudrais voir ce premier exemple avec vous dans Matthieu au chapitre 26. Évangile de Matthieu au chapitre 26. Vous allez voir que le temps de souffrance et d'épreuve que Dieu permet est parfois très utile pour apprendre à mieux nous connaître. À moins que vous vous connaissiez parfaitement. Pierre l'a cru. Matthieu, chapitre 26, verset 31. Alors Jésus leur dit: « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit: « Mais si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus lui dit: « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit: « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. On continue un petit peu plus loin au verset 56, c'est après l'arrestation de Jésus, juste ce verset où il est écrit ceci: à la fin, Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous sommes maintenant dans le temps de l'épreuve, le temps de souffrance terrible. On continue un peu plus loin au verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Mais certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement. » Amen. Quel examen, quelle épreuve. Et on n'est pas du tout là pour juger Pierre. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? C'est pas du tout pour juger Pierre, mais pour réaliser que Dieu, dans des temps d'épreuves, de souffrances parfois terribles, et on en parlera peut-être un petit peu après, on n'a pas à juger des situations d'épreuves parce qu'il y a... Même, vous savez, des fois, voilà, je suis passé par là, je te comprends, je suis... Je ne sais pas si on peut comparer des souffrances, des histoires, des possibilités que chacun nous avons. Dans une même épreuve, nous avons tous, à cause de notre vécu, de plein de choses, nous pouvons réagir tellement différemment. Et pour les apôtres, pour les disciples, c'était vraiment un temps difficile. Ils sont vraiment tombés d'une illusion finalement de victoire où Jésus allait régner, tout ça. Ils n'étaient pas du tout dans ce schéma. C'était vraiment une épreuve terrible. Mais à l'heure du grand examen, Pierre, il a échoué. Il se connaissait mal. Monsieur Gault, la semaine dernière, nous a dit ceci, « Notre personnalité se révèle pleinement dans l'épreuve, dans la souffrance. » C'est là que quelque part, on est un petit peu mis à nu. C'est Alfred de Musset qui disait ceci, « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Il faut noter quelque chose qui est très important. C'est que Jésus savait parfaitement ce qui allait arriver. Jésus connaissait parfaitement le cœur de Pierre. Et ça a été rappelé tout à l'heure, Jésus sonde nos cœurs. Il nous connaît, certes, c'est clair, beaucoup mieux que l'on se connaît, rien quand on lit un texte comme celui-là. Et là se pose une question importante. Ce temps d'examen dans l'épreuve, j'ai dit qu'il était important pour Dieu pour nous examiner et pour nous examiner, certainement plus important pour nous. Mais il y a une question qui se pose, si Dieu sait tout, et nous croyons qu'il sait tout, a-t-il besoin de nous examiner au travers de telles souffrances? Je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que Dieu qui sait tout et qui nous connaît parfaitement a besoin de nous. Il a besoin de notre libre arbitre, du libre choix qu'il nous a donné. Pierre était tout à fait libre de son comportement. Même mieux, il était averti de ce qui allait lui arriver. Donc il avait même la possibilité, il avait un avantage, c'est qu'il aurait pu, quelque part, parce qu'il était averti. Mais Pierre était tout à fait libre. Et Dieu a besoin de nous, il a besoin de notre libre arbitre pour que la chose qu'il savait qui allait arriver s'accomplisse vraiment. Dieu ne peut pas connaître à l'avance une chose qui n'existerait pas. Et il a besoin de nous. C'est pour ça que l'examen est aussi important pour Dieu, pour que s'accomplisse vraiment ce qui, en définitive, il savait à l'avance. Vous savez, dans ces temps de prière où nous lui parlons de tout ça, il connaît toutes ces choses. Mais il a tellement besoin que nous épanchions notre cœur. Et en fait, c'est plus pour notre besoin à nous que notre cœur. C'est pour cela que, quelque part, Dieu n'a pas besoin de nous examiner. La réponse serait juste de dire non aussi. Mais pour que nous soyons sensibles à l'importance de notre propre volonté, que Dieu respecte, n'oublions pas que Dieu nous a créés à son image, et c'est un homme et femme libre qui nous a choisis. Personne ne pourra dire un jour, Dieu m'a forcé à venir vers lui. Il nous attire, il nous prévient, il nous avertit. Et je fais une parenthèse, dans certaines souffrances et épreuves terribles de nos vies, certains pourraient témoigner que Dieu l'a averti d'une manière ou d'une autre, et ça c'est sa bonté, sa miséricorde. Dieu nous laisse libres de choisir. Je voudrais lire un second texte avec vous, toujours dans ce premier point, du temps d'examen dans les temps de souffrance. Dans Genèse chapitre 22, là aussi une épreuve terrible, elle concerne Abraham. Eh oui, vous avez reconnu ce texte, Genèse 22, je vois que on en parle souvent. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un endroit où on a envie d'aller. Et nul d'entre nous n'aimerions vivre ce que Abraham a été obligé de vivre pour obéir à son Dieu. Et pourtant. Second exemple, Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, temps d'examen. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva. De bon matin, il sella son âne, il prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On va continuer un petit peu plus loin au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il rangea le bois. Nous, on lit ce texte comme ça, mais je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Il est dit, il lia son fils Isaac, et aussi d'imaginer ce qu'a pu être la réaction du fils aussi. Il le met sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Malgré l'obéissance, vous imaginez la souffrance, la douleur, en fait, inimaginable même. Ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, à la fois d'obéir et de sacrifier son fils. Il y a une image extraordinaire, et j'en parle pas ce matin, de ce que Dieu a accompli au travers de son propre fils. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Quelle épreuve, quel examen. Abraham l'a très très bien réussi, et je reviens sur cette nécessité, je sais maintenant, Dieu savait, à la sens, dans son omniscience, il connaissait les événements, mais il avait besoin que Abraham obéisse, et pour que cette chose arrive vraiment, qu'il l'accomplisse de sa propre volonté, je sais maintenant. Les épreuves, l'école de la souffrance, c'est un temps d'examen pour nous. Vous avez vu cette mise à l'épreuve. Et je voudrais lire un troisième exemple dans le livre du Deutéronome. On revient exactement au même endroit. Donc vous savez le chapitre, maintenant je ne vous le dis même pas. Deutéronome, chapitre 8. Ça va, vous suivez. On revient dans Deutéronome, toujours dans ce contexte où l'Éternel parle à Israël. Et regardez cette notion de temps d'examen que Dieu utilise au milieu de nos souffrances. Verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Voilà, de temps d'examen que Dieu va utiliser. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Dieu n'est pas à l'origine du mal dans ce choix de tourner dans le désert. Vous savez quelle a été l'implication du peuple d'Israël, etc. Vous connaissez ces circonstances où, finalement, Dieu n'a fait que pousser Israël à ne pas tourner autant de temps dans le désert. Mais Dieu a utilisé ce temps particulier. Il transforme le mal en bien, un temps d'épreuve qu'il va utiliser pour connaître, pour que les dispositions des cœurs de chacun soient mises à nu devant lui et aussi devant eux-mêmes. On va lire un quatrième exemple dans l'Exode au chapitre 15. Alors là aussi, si vous avez un petit signé, on reviendra un petit peu dans ces quelques chapitres du livre de l'Exode parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignements dans le cheminement que le peuple d'Israël a eu après sa sortie du pays d'Égypte. Mais juste ces quelques versets dans Exode au chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 22. C'est quelque temps, très peu de temps après donc le passage de la mer Rouge et cette magnifique délivrance que le peuple d'Israël a connue par la main puissante de Dieu. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple dit, ne nous inquiétons pas, Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. Non, c'est pas ça? Ça aurait pu. Regardez dans votre Bible, c'est juste avant. C'est pas pour juger, comme j'ai dit pour Pierre, mais c'est l'Écriture qui nous dit et nous dévoile ce qui s'est passé. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel, notez ceci, donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. On peut rapprocher cet examen que le peuple d'Israël, examen, épreuve, tant en tout cas où Dieu lui permet de s'examiner lui-même et où Dieu se permet aussi de l'examiner. Ce temps particulier, on peut le rapprocher avec ce qui s'est passé pour Pierre, parce que quelques heures auparavant, je dirais ces 2 ou 3 jours, je crois, ils étaient à célébrer et à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Et si vous regardez avec moi, regardez au chapitre 15, juste regardez au verset 11 ce cantique qu'ils ont célébré. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Chapitre 15, verset 12. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Amen. C'est pas un beau cantique? Eh oui, ils l'ont chanté avant de murmurer. C'était le temps de la victoire, de la délivrance, temps où le peuple d'Israël avait tellement attendu ce temps, ils étaient dans la joie. Et quelques temps après, voilà, les murmures, le temps de l'épreuve, l'examen, comme Pierre un petit peu, ce caractère, cette amertume refaisait surface. On garde la Bible ouverte dans ce chapitre 15 et on va continuer la visite. On va changer de salle. Maintenant, nous allons dans une salle. Alors, elle a de particulier, cette salle, c'est que sur un mur, il y a un grand tableau noir, un immense tableau noir. Pour les salles plus modernes, il y a le vidéoprojecteur au-dessus. Dans cette salle, il y a plein de tables, en général de 2. Et tout autour, suivant les salles, il y a plein de matériel pédagogique. Vous avez tous reconnu la salle de classe. Ah, la salle de classe. C'est l'endroit où le maître ou la maîtresse va mettre tout son talent à communiquer des leçons utiles aux élèves. C'est dans la souffrance, mes frères et sœurs, que Dieu pourra bien trouver, que Dieu pourra bien souvent trouver en nous une oreille attentive. Nous serions étonnés, je pense, de savoir et de voir le nombre de personnes au milieu de nous ce matin qui ont été sensibles à la voix de Dieu au milieu de la souffrance. Dans le livre du prophète Osée, Dieu déclare ceci, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Osée chapitre 2, verset 16. Tous les grands hommes de Dieu, Abraham, Joseph, Moïse, David, Daniel, tous ont été formés, éduqués, enseignés par Dieu à l'école de la souffrance. Et nous alors, on est meilleurs qu'eux ? Ce qui est intéressant de regarder dans l'histoire d'Israël après la sortie du pays d'Égypte, c'est de voir que le peuple d'Israël, nous l'avons vu dans ce passage, mais il y en a plusieurs, c'est que le peuple d'Israël va connaître des temps de crise. Et tout au long de ces moments de crise, des moments d'épreuve, parfois terribles, le peuple d'Israël va en apprendre davantage sur la nature de Dieu, sur sa connaissance de Dieu. Dieu va se révéler davantage au fur et à mesure de ces crises. Et cela peut se rapprocher aussi à nos propres vies, du moins comme on en parlera tout à l'heure, si toutes ces périodes que nous vivons de souffrance sont devenues des choses positives dans notre vie. Ce peuple a été conduit de crise en crise, et au travers de chacune d'elles, Dieu s'est révélé. Vous êtes toujours dans le chapitre 15, on lit la suite au verset 26. Je vous ai demandé de faire attention au verset 25. Il est dit que c'est là, à cet endroit-là, que l'Éternel a donné au peuple des lois et des ordonnances. C'est là qu'il l'a enseigné, au milieu de cette épreuve. Et au verset 26, il dit: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est le deuxième point que nous partageons dans ce message. Après un temps d'examen, l'école de la souffrance est aussi un temps d'enseignement. C'est là que l'Éternel a donné ses lois, et c'est là que l'Éternel s'est un peu plus révélé à son peuple comme l'Éternel qui guérit. Ces murmures qui sont ressortis, ces frustrations qu'il y avait dans leur cœur, n'oublions pas que le peuple d'Israël en Égypte a terriblement souffert, et que ce n'est pas par tout ce qu'ils ont pu voir, tout ce que Dieu a pu accomplir par sa puissante main, qu'ils étaient complètement guéris de l'intérieur. Et on le voit d'ailleurs dans cette épreuve-là, on le voit dans plusieurs autres épreuves. Il y a des choses qui ont besoin d'être guéries encore dans leur cœur, de tout ce qui va ressortir comme des murmures. Dieu veut leur dire: vous avez encore besoin de soins divins pour être libérés de l'amertume, du découragement, de la lassitude, et pour grandir dans la confiance en moi. Nous, mes frères et sœurs, n'avons-nous pas aussi besoin d'une révélation encore plus grande de l'Éternel? Dans la souffrance, Dieu permet de nous révéler qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Une autre crise, regardez dans Exode au chapitre 17. Une autre crise que le peuple d'Israël a connue. Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. L'Éternel, mon étendard. Encore une crise terrible que Dieu va utiliser pour leur apprendre. Et là, il n'y a rien de plus significatif que la victoire ne dépend pas d'eux. Ce n'étaient pas des combattants. Vous lisez quelques versets plus haut, ils étaient là encore en train de murmurer, ils ont eu encore un problème d'eau, de soif, plein de murmures, de gémissements. Ce n'était pas une armée, prêt à combattre, loin de là. Mais l'Éternel a dit « va ». Et lui a prouvé par cette image de main qui sont une image spirituelle extraordinaire pour nous de ce que peut être l'intercession de Jésus auprès du Père pour chacun d'entre nous. Dieu leur a montré qu'ils étaient une armée, mais que c'était lui qui combattrait pour eux. Cette révélation s'est faite d'une manière très profonde au moment d'une terrible épreuve dans leur vie. Et nous sommes pareils bien souvent. Dieu permettra des crises pour nous apprendre et nous révéler que la victoire, elle lui appartient à lui, éternel. Je dirais Christ, ma bannière. Alléluia. Un troisième exemple d'enseignement. Genèse 22, on l'a lu tout à l'heure et on y revient ensemble. Genèse 22, pour lire la suite. L'école de la souffrance, un temps d'enseignement, des temps de crise où Dieu veut se révéler de plus en plus, davantage dans nos cœurs. Genèse 22, on va lire la suite, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, qui veut dire l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Au travers de cette épreuve, Abraham va un peu plus découvrir, apprendre un caractère divin extraordinaire. Dieu pourvoira. Abraham connaissait ce caractère. Vous avez lu ? Enfin, on ne l'a pas lu ensemble, donc on n'a pas pu le lire. Mais au verset 8, il est dit ceci. Abraham répondit à son fils, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et là, il faut dire aussi quelque chose d'important. C'est que Dieu permet parfois l'épreuve pour que ce que nous savons d'une manière intellectuelle, et ça peut être tout ce que nous assimilons ce matin au travers de la prédication, c'est vrai que c'est quelque chose qui rentre dans la connaissance, mais Abraham avait besoin de quelque chose de plus fort. Et l'épreuve sera là comme pour graver en lettres de feu, le feu de l'épreuve, au plus profond de son âme, que Dieu est véritablement celui qui pourvoit. Et je suis conscient, mes frères et sœurs, que tout ce que nous pouvons partager, tout ce que vous pouvez même lire dans la parole de Dieu, vous avez besoin, vous aussi, de l'expérimenter. Et le feu de l'épreuve, bien souvent, les gravera vous aussi dans votre cœur. Dieu pourvoira. Ce n'est pas une formule, c'est un vécu. C'était ainsi pour Abraham. Je voudrais avancer un peu plus loin et arriver sur une troisième salle dans notre visite. Alors, elle est un petit peu différente des autres. Dans cette salle, on a mis les tables au milieu, en rond un petit peu, avec toutes des chaises tout autour. C'est un petit peu, vous savez, comme la salle du Conseil des ministres. Et vous avez reconnu peut-être la salle du Conseil de classe. Et là, on fait le bilan. En baisse ce trimestre, en progrès, etc. C'est le temps du bilan. Y a-t-il eu du progrès ? Qu'il y a des professeurs qui sourient, c'est bien. Y a-t-il eu une évolution ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Les réactions que nous aurons face aux épreuves, disons-le, peuvent parfois avoir un effet positif, mais parfois un effet négatif. Dans le royaume de Dieu, certains ne vont même pas franchir la porte de l'école. Jésus a dit ceci au travers de cette parabole, vous savez, de la semence qui tombe dans différents terrains. Jésus a dit ceci, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit de suite avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Nombreux sont celles et ceux qui sont venus à Christ, qui se sont réjouis de la grâce de Dieu, et dès qu'il y a eu une persécution, dès qu'il y a eu une épreuve qui aurait dû servir de tremplin pour continuer, ils ont abandonné. Pas de progrès possible, régression. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est celles qui vont ne tirer aucun bénéfice de ce temps et de ce passage à l'école de la souffrance. Certains vont même s'aigrir. Certains vont se faire beaucoup de mal. Pire, certains vont faire du mal aux autres. Et là, il faut quand même réinsister. La souffrance occasionne beaucoup de douleur. Et il faut avoir beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent. J'en ai parlé tout à l'heure, faisons attention parfois aux différentes comparaisons que l'on pourrait avoir. Connaissons-nous vraiment les situations dans lesquelles nos frères et sœurs et ceux que nous côtoyons sont réellement? Nous devons avoir de la compassion. Vous savez, la souffrance, quand la douleur est terrible là, la douleur physique ou morale peut être tellement forte que les personnes souffrantes parfois ne réagissent pas bien. La souffrance peut les disposer au mal. Et nous devons être vigilants sur cela aussi dans ces temps d'épreuve. Élihu, ce jeune qui a parlé, vous savez, dans l'histoire de Joseph, il a attendu que les vieillards aient fini de parler, et lui a parlé. Dans l'histoire de Job, j'ai dit Joseph, pardon, ce qui me semblait. Élihu a dit ceci comme avertissement à Job, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Dans Job, chapitre 36, 21. Et cette vérité n'est que trop fréquente. Les gens blessés blessent les autres. Mais pour nous, il faut que les temps de souffrance que Dieu permet soient pour nous synonymes de progrès. On dit que lorsqu'un aigle doit faire face à un orage, il place ses ailes d'une certaine manière et il va même se servir de la force des vents pour s'élever au-dessus de la tempête. C'est ainsi que nous devons vivre ces temps particuliers d'épreuves, afin que Dieu nous élève encore plus près de lui. Job a dit ceci à la fin de cette épreuve, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dans la version Semeur, il dit ceci, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Vous auriez besoin aussi de voir, quelles que soient les circonstances que Dieu permettra, vous-même le Seigneur. Nous partageons des connaissances, des expériences, nous lisons des choses extraordinaires dans la parole de Dieu, mais c'est souvent dans le feu de l'épreuve que pour vous aussi, vous verrez le Seigneur agir. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ce passage à l'école de la souffrance, mais nous voyons en tout cas que Dieu permet ces moments, parce que je le crois, c'est un des moments les plus particuliers de notre vie où nous sommes peut-être les plus enseignables. La souffrance nous transforme, la souffrance modèle notre personnalité, notre caractère, nous perfectionne. Dieu veut nous conformer davantage à ses propres lois. Vous l'avez vu dans ces épreuves, comment Dieu a voulu enseigner le peuple d'Israël dans ses lois et dans ses ordonnances. C'est un petit peu comme un athlète qui verra ses muscles se former après bien des souffrances. Un jour, une personne a posé cette question à Michel-Ange. Elle a dit, mais maître, comment avez-vous fait pour réaliser ce chef-d'œuvre? C'était facile, madame, a répondu l'artiste. La sculpture, elle était déjà dans le bloc. Il m'a suffi d'ôter ce qui était en trop. Quelle image aussi pour nous. Ouais, quelle image aussi pour nous de ce burin qui peut-être parfois a un besoin d'enlever ce qui est en trop. Dieu veut nous perfectionner les uns et les autres. On est au clair là-dessus. Il veut que nous soyons meilleurs par quelque chemin qu'il nous fera passer. Vous savez, je le laisse pour votre réflexion personnelle, on n'a pas le temps de le voir ce matin, mais Pierre va utiliser une image extrêmement forte pour parler des progrès de notre foi. Il dira ceci, « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, elle est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 7. Le passage au feu nous purifie, nous permet de prendre des distances par rapport au péché. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais retenons ceci. Dans cette salle où nous faisons le bilan, nous avons besoin d'associer ces temps particuliers de souffrance à une progression spirituelle. Je voudrais conclure maintenant. Au travers de l'épreuve, Dieu révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Nous avons parlé de ce temps d'examen. Dieu nous examine ou nous nous examinons nous-mêmes. Il nous conduit ensuite dans cette salle de classe où il va, avec toute sa pédagogie, et il a tout ce qu'il faut pour nous enseigner. Vous savez, tout à l'heure, quand on relisait ces versets suite à cette eau qui était mauvaise, quand on voit mais comment l'Éternel prend soin, il y a ce bois qui est mis, l'eau qui est transformée en une eau douce. Faisons confiance au Seigneur, il a toute sa pédagogie pour nous enseigner au mieux. Il fait cela, il permet un temps d'examen, un temps d'enseignement, et aussi, et je voudrais terminer par cette note ce matin, il veut nous montrer, il ne le fait pas tout le temps, mais il veut, le plus souvent possible, nous montrer ce qu'il est capable de faire de cette épreuve. Vous savez, et heureusement, l'école de la souffrance n'est pas une fin en soi, c'est un passage de notre vie où Dieu peut nous révéler comment il peut nous en sortir. Exactement comme cette histoire du passage de la mer Rouge. Je relisais ces versets ce matin, extraordinaire. Ce passage où le peuple d'Israël a été mis à l'écart, vous vous rendez compte, on pourrait terminer vite fait par ces quelques versets. Dans Exode 14, il faut le lire ensemble. Pour nous encourager, c'est Dieu qui a permis que le peuple d'Israël se retrouve face à la mer, pris comme un étau. D'un côté, il y avait les Égyptiens, ils étaient fous de colère, hein, la haine qu'il y avait dans leur cœur. Et d'un côté, la mer. C'est Dieu qui l'a permis. Exode 14, on va lire au verset 22. Dieu a parlé, la mer s'est ouverte en deux, et au verset 22, il est dit, « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. » Regardez au verset 25. « Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, il n'en échappa un seul. Amen. Dieu a ouvert la mer. Extraordinaire. Le peuple d'Israël a marché sur un sol sec. Les Égyptiens les ont poursuivis, confiants. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Dieu a envoyé les anges pour enlever les roues des chars, pour rendre pénible l'avancement du peuple des Égyptiens, comme ça permettait au peuple d'Israël tranquillement de finir la traversée. Eux, ils étaient freinés. Et à un certain moment donné, Dieu a refermé les eaux sur les ennemis d'Israël. Dans les temps de crise, Dieu veut aussi nous montrer ce qu'il est capable de faire et il peut nous surprendre dans ces temps particuliers de notre vie. Prions-le un instant ensemble. Éternel, nous, notre Dieu, nous ne pouvons que te bénir et te rendre grâce pour ta parole que tu nous as donnée. Elle est un bienfait que nous ne pouvons pas mesurer. Mais chaque fois que nous la méditons, que nous la partageons ensemble, chaque fois que nous rentrons plus en avant dans la révélation de ton nom, nous sommes confondus, Seigneur. Déjà par ton amour, par ta bonté, ta miséricorde. Mais qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu aies tant d'égards sur chacune de nos vies? Et nous grandissons aussi dans la connaissance des projets, des desseins que tu as sur nos propres vies. Seigneur, pardonne pour toutes les fois où nous aussi nous murmurons facilement, où nous nous plaignons, où nous cherchons peut-être trop longtemps les causes et les raisons de nos souffrances, sans peut-être prendre plus de temps pour essayer d'être enseigné par toi. Seigneur, de t'écouter parler, d'attendre peut-être patiemment les jours, les mois peut-être, les années, Seigneur, que tu permets afin de nous façonner. Seigneur, nous voulons te prier les uns et les autres. Seigneur, que tu puisses trouver en nous des hommes et des femmes malléables, que tu pourras façonner comme tu le voudras, Seigneur. Qu'il y ait pour nous vraiment une disposition de cœur à écouter ta parole, à obéir, Seigneur, dans les lois et les commandements que tu nous adresses. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas grandir dans une connaissance intellectuelle. Nous voulons vivre cela dans nos propres vies. Et nous le disons, oui, par la foi, quels que soient les temps que tu permettras, nous resterons debout, Seigneur. Contre tout et malgré tout, nous resterons confiants en toi. Amen.